VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Il est midi à Kinshasa, bonjour à tous. En RDC, les évêques catholiques mettent la dernière main à la pâte pour trouver un accord entre les protagonistes de la crise congolaise. Écho de la médiation de la dernière chance avec Gino Rema de Top Congo FM.
Les questions qui sont encore pendantes, donc il y a des questions à régler et dont les détails sont importants, donc il faut qu'on se mette bien d'accord. Mais je crois, je n'ai pas l'habitude de le faire, je vais le faire quand même cette fois-ci. Je crois que nous sommes engagés et bien engagés pour bien atterrir en douceur. Je crois que ce sera à partir de 15h, sauf imprévu. Je crois que ça se terminera bien.
Voilà, c'était plutôt Félix Tshisekedi de la plateforme de l'opposition Rassemblement optimiste quant à l'issue de la médiation des évêques congolais. Vital Kamerhe est signataire du premier dialogue parrainé par l'Union africaine. Il pense que cette fois, c'est la bonne.
Toutes les parties restent optimistes quant à la clôture des travaux ce vendredi. À la CENCO, les décors semblent plantés avant les derniers réglages. Pour le secrétaire général adjoint de la CENCO, les évêques clôturent ce vendredi. Abbé Donatien Chollet.
Au début de l'après-midi, la plénière va adopter, nous espérons. Et puis pour clôturer, nous espérons encore à 15h. Mais tout dépend des politiciens qui doivent trancher.
Pour la journée de jeudi, les évêques qui avaient une séance de travail avec un groupe de rassemblement devaient juste après aller rencontrer le chef de l'État sur certainement les quelques divergences qui restent à aplanir. Depuis Kinshasa, Gino Rema de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Voilà, autant pour moi, Gino Rema nous a rejoint. Et nous allons écouter maintenant Vital Kamerhe, qui est signataire donc du premier dialogue parrainé par l'Union africaine. Il pense que cette fois, c'est la bonne.
J'ai senti de part et d'autre, que ce soit du côté du rassemblement, du côté de l'opposition qui était au dialogue, de la majorité de la société civile, j'ai senti que tout le monde essaie de faire des concessions pour que seule la paix triomphe et que le peuple congolais soit vainqueur de ce processus. Nous ne sommes plus dans des postures où chacun veut être ceci ou cela, où chacun veut gagner contre l'autre camp. C'est cet esprit-là qu'il fallait imprégner à tout le monde dès le départ. Et quand on part sur cette base-là, on construit des choses durables.
Le dossier sur le dialogue en RDC, signé Gina Rema de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Lubumbashi en RDC sur le 102.8 FM, c'est bien évidemment VOA Afrique, 24h sur 24.
La reconquête de la forêt de Sambisa, un des derniers fiefs de Boko Haram, représente, si elle est confirmée, une victoire majeure pour l'armée nigériane, mais elle risque aussi de déplacer les combats contre des djihadistes extrêmement mobiles vers d'autres champs de bataille. Michel Joseph.
Après 7 années de conflits dévastateurs dans le nord-est du Nigeria, les experts estiment que la guerre est loin d'être finie, contrairement aux affirmations répétées du gouvernement et de l'armée. L'insaisissable chef du mouvement, Aboubakar Shekau, a répondu jeudi par une nouvelle provocation. « Nous n'avons été chassés de nulle part », a-t-il affirmé dans une vidéo, promettant de continuer à se battre jusqu'à l'instauration d'un califat islamique. Les insurgés se déplacent sur le lac Tchad pour échapper aux offensives militaires en cours, selon Aboubakar Gamandi, responsable du syndicat des pêcheurs de l'État du Borno, épicentre du conflit qui a fait plus de 20 000 morts et 2,6 millions de déplacés depuis 2009. C'est d'ailleurs dans ce labyrinthe lacustre que se sont retranchés les hommes d'Abou Moussab al-Barnaoui, leader d'une faction rivale de Boko Haram, adoubée par le groupe État islamique EI en août.
Le Niger a lui annoncé cette semaine un programme d'amnistie aux combattants de Boko Haram qui déposeraient les armes. Une annonce faite par le ministre de l'Intérieur, Mohamed Bazoum, après qu'une trentaine d'ex-combattants de la secte nigérienne de nationalité nigérienne ont annoncé qu'ils abandonnaient le mouvement djihadiste. Des programmes similaires existent déjà dans des pays comme l'Algérie ou la Mauritanie, mais sont-ils vraiment efficaces? La réponse du journaliste mauritanien Moussa Sambassi, spécialiste du terrorisme.
Écoutez, c'est une approche en vue de la résolution de ce problème de l'extrémisme combattant qui a démarré d'abord en Algérie, qui a fait un programme similaire, qui a été le premier pays à mettre en place un tel programme, c'est-à-dire coupler une action militaire énergique avec une ouverture vers ceux qui n'ont pas, en tout cas, des mains attachées par du sang, pour qu'ils puissent se réintégrer dans la vie de tous les jours. En Mauritanie aussi, la même approche a été entamée par le gouvernement, qui a organisé une sorte de programme à double voie, une voie militaire, c'est-à-dire le renforcement des capacités militaires des pays, mais en même temps essayer de rapprocher des éléments qu'on appelle ici entre guillemets égarés, en fonction d'un programme de réinsertion, de prêts financiers, de financement de petits projets, etc., pour qu'ils puissent s'intéresser. Parce qu'en fait, l'analyse est faite que la plupart des jeunes qui sont recrutés par ces mouvements extrémistes ne sont pas des éléments, on va dire, convaincus. Mais simplement, c'est d'exister le chômage qui les pousse dans les bras des recruteurs des mouvements islamistes.
Et pour le cas de la Mauritanie, est-ce que c'est un programme qui marche bien, selon vous ?
Écoutez, sur à peu près la cinquantaine d'individus qui ont été concernés par ce programme, je crois qu'on a pu signaler qu'un seul cas de récidive, c'est-à-dire un seul jeune qui a peut-être rejoint les rangs des combattants islamistes. Mais les autres sont... mènent une vie normale au milieu des autres. Enfin, chacun doit engager une activité et apparemment c'est tombé la voie des armes pour régler ces problèmes-là.
Justement, est-ce qu'on peut faire vraiment confiance à un ancien extrémiste qui cherche à réintégrer la société? Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi mettre un programme de surveillance de ces personnes-là?
Oui, il y a forcément un risque important que ces jeunes en fait, profitent simplement de l'amnistie offerte pour aller rejoindre les combattants. D'ailleurs, il y a eu des cas comme ça, aussi bien en Algérie qu'en Mauritanie. Comme je vous ai dit, il y a au moins un cas qui a été signalé. Mais ce risque, la plupart des gouvernements préfèrent le courir plutôt que de rester les bras croisés sans aucune approche. Et je pense que le Niger aussi s'engage sur cette voie parce qu'en fait, on essaie, en mettant la pression sur Boko Haram, la pression militaire, mais en même temps, essayer de tarir les sources de recrutement du mouvement. Mais le seul moyen de tarir les sources, c'est d'offrir des opportunités d'insertion aux jeunes qui seraient enclins à les rejoindre.
Le journaliste mauritanien Moussa Sambassi, joint à nous actuellement par Abdourahmane Dia. Retour hier à Bamako de 159 Maliens rapatriés de Libye en provenance de Tripoli. Parmi eux, 32 femmes, 3 enfants non accompagnés, 3 malades, dont un blessé par balle, Kassim Traoré.
C'est après 6 heures de vol que ces 159 Maliens sont arrivés à Bamako. Ils sont tous des rapatriés volontaires. 45 des 159 étaient en prison. Ils se réjouissent d'être revenus au Berkay sain et sauf, car ils étaient tous maltraités par la police libyenne.
Mon objectif, c'était de traverser la mer pour rentrer en Italie, voilà, au pays des Blancs. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Je suis arrivé dans un pays maghrébin où vraiment tout j'ai vécu seulement que la prison dans ma carrière. Donc, raison pour laquelle j'ai décidé de rentrer au pays. Oui, ce soir, ici chez moi, ici à Bamako, et Dieu merci.
Certains rapatriés ne sont pas prêts à oublier les calvaires libyens.
La souffrance que j'ai vécue là-bas, c'est seulement quand je suis arrivé aujourd'hui à Bamako à 18h, je pense à ceux qui sont là-bas. Moi, aujourd'hui, je suis en paix ici, mais ceux qui sont là-bas, c'est seulement dit, je pense beaucoup à eux.
Ce retour volontaire des 159 Maliens de la Libye a été possible grâce au gouvernement du Mali avec le soutien de l'Organisation internationale de la migration. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
L'ex-premier ministre burkinabé Isaac Zida sera rayé des forces armées nationales pour désertion en temps de paix, a annoncé jeudi le président Roch Marc Christian Kabore. Le général Zida a rejoint en janvier sa famille au Canada à la fin de la transition en décembre 2015, muni d'une permission délivrée par le chef de l'État burkinabé. Sa permission a expiré depuis le 15 février. Le président Kabore l'a sommé en vain publiquement à maintes reprises de regagner le Burkina Faso.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Barack Obama a ordonné jeudi l'expulsion de 35 diplomates russes et imposé des sanctions contre des responsables du renseignement russe que Washington soupçonne d'être impliqués dans le piratage informatique qui a visé le Parti démocrate pendant la campagne des élections de novembre dernier aux États-Unis. Quelle portée pour ces sanctions prises à moins d'un an de la fin du mandat de Barack Obama? Écoutez l'analyse du professeur Souleymane Bachelet Diagne de l'Université de Columbia à New York.
Une mesure comme celle-là, qui consiste à renvoyer des diplomates et des personnalités qui ne sont pas tellement les diplomates, mais du monde des renseignements, ce nombre-là me semble assez important pour qu'on considère que c'est là une réponse qui correspond véritablement à l'ampleur de la cyberattaque qui a été menée essentiellement contre le Parti démocrate. Il me semble qu'il faut mettre ça en relation également avec le fait que dans quelques jours maintenant, le nouveau président Trump va avoir à s'occuper des conséquences de cette réponse. Or, on le sait, le président Trump a manifesté pour le moins, c'est le moins qu'on puisse dire, beaucoup de scepticisme d'abord devant l'accusation de la Russie et deuxièmement devant les sanctions à prendre.
Merci de nous avoir suivis. Jean-Roger Billon à ce micro. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.